Chapitre 22. Un grand nombre de camarades et de blessés restèrent à Gosselies, mais la masse poursuivit sa route, et vers 9 heures, on commençait à découvrir tout au loin les clochers de Charleroi, quand tout à coup des cris, des plaintes et des coups de feu s'entendirent en avant de nous, à plus d'une demi-lieue. Toute l'immense colonne de misérables fit halte en criant. « La ville ferme ses portes! Nous sommes arrêtés ici !» La désolation et le désespoir se peignaient sur toutes les figures. Mais un instant après, le bruit courut que des convois de vivres approchaient et qu'on ne voulait pas faire les distributions. Alors, la fureur remplaça l'épouvante, et tout le long de la route, on n'entendait qu'un cri. « Tombons dessus ! Assommons les gueux qui nous affament ! Nous sommes trahis !» Les plus craintifs, les plus abattus, se mirent à presser le pas en levant le sabre ou en chargeant leur fusil. On voyait d'avance que ce serait une véritable boucherie si les conducteurs et l'escorte ne se rendaient pas. Buche lui-même criait « Il faut tout massacrer. Nous sommes trahis. Arrive, Joseph, vengeons-nous » Mais je le retenais par le collet en lui criant « Non, Jean, non. Nous avons déjà bien assez de massacres. Nous sommes réchappés de tout. Ce n'est pas ici qu'il faut nous faire tuer par des Français. Arrive !» Il se débattait. Pourtant, à la fin, comme je lui montrais un village à gauche de la route, en lui disant « Tiens, voilà le chemin du Harberg. Voilà des maisons comme aux 80. Allons plutôt là, demander du pain. J'ai de l'argent, nous en aurons pour sûr. Arrive, cela vaudra mieux que d'attaquer les convois comme une bande de loups. » Il finit par se laisser entraîner. Nous traversâmes encore une fois les récoltes. Sans la faim qui nous pressait, nous nous serions assis au bord du sentier à chaque pas. Mais au bout d'une demi-heure, nous arrivâmes, grâce à Dieu, devant une espèce de ferme abandonnée, les fenêtres cassées, la porte ouverte au large, et de gros tas de terre noire autour. Nous entâmes en criant. « Est-ce qu'il y a personne ?» Nous tapions contre les meubles avec nos crosses. Pas une âme ne répondait. Notre fureur s'augmentait d'autant plus que nous voyions quelques misérables venir par le même chemin que nous, et que nous pensions. « Ils viennent manger notre pain !» Ah ! Ceux qui n'ont pas souffert de privations pareilles ne connaissent pas la fureur des hommes. C'est horrible, horrible. Nous avions déjà cassé la porte d'une armoire pleine de linge, et nous bouleversions tout avec nos baïonnettes, quand une vieille femme sortit de dessous une table de cuisine qui couvrait l'entrée de la cave. Elle sanglotait et disait « mon Dieu, ayez pitié de nous !» Cette maison avait été pillée au petit jour. On avait emmené les chevaux, l'homme avait disparu, les domestiques s'étaient sauvés. Malgré notre fureur, la vue de la pauvre vieille nous fit honte de nous-mêmes, et je lui dis « N'ayez pas peur, nous ne sommes pas des monstres. Seulement, donnez-nous du pain, ou nous allons périr. » Elle, assise sur une vieille chaise, ses mains sèches croisées sur les genoux, disait « Je n'ai plus rien. Ils ont tout pris, mon Dieu, tout, tout. » Ses cheveux gris lui pendaient sur les joues. J'aurais voulu pleurer pour elle et pour nous. « Ah, nous allons chercher nous-mêmes, » dit Jabuche. Et nous passâmes dans toutes les chambres. Nous entrâmes dans l'écurie. Nous ne voyions rien. Tout avait été pillé, cassé. J'allais ressortir quand, derrière la vieille porte, dans l'ombre, je vis un placard blanchâtre contre le mur. Je m'arrêtai. J'étendis la main. C'était un sac de toile avec une bretelle que je décrochais bien vite en tremblant. Buche me regardait. Le sac était lourd. Je l'ouvris. Il y avait 2 grosses raves noires. Une demi-miche de pain sec et dur, comme de la pierre. Une grosse paire de ciseaux pour tailler les haies. Et tout au fond, quelques oignons et du sel gris dans un papier. En voyant cela, nous poussâmes un cri. La peur de voir arriver les autres nous fit courir derrière, bien loin dans les seigles, en nous cachant et nous courbant comme des voleurs. Nous avions repris toutes nos forces, et nous nous assîmes au bord d'un petit ruisseau. Buche me disait « Écoute, j'ai ma part. »« Oui, la moitié de tout, lui dis-je. Tu m'as aussi laissé boire à ta gourde. Je vais partager. » Alors il se calma. Je coupai le pain avec mon sabre, disant « Choisis, Jean. Voici ta rave. Voici la moitié des oignons et le sel dans le sac entre nous. » Nous mangeâmes le pain, sans le tremper dans l'eau. Nous mangeâmes notre rave, les oignons et le sel. Nous aurions voulu continuer de manger toujours. Pourtant, nous étions rassasiés. Nous nous agenouillâmes au bord du ruisseau, les mains dans l'eau, et nous bûmes. « Maintenant, allons-nous-en, » dit Bûche, « et laissons le sac. » Malgré la fatigue qui nous cassait les jambes, nous repartîmes à gauche, pendant que sur la droite, derrière nous, du côté de Charleroi, les cris, les coups de fusil redoublaient, et que tout le long de la route, on ne voyait que des gens se battre. Mais c'était déjà loin. Nous tournions la tête de temps en temps, et Bûche me disait « Joseph, tu as bien fait de m'entraîner. Sans toi, je serais peut-être étendu là-bas, au bord de cette route, assommé par un Français. J'avais trop faim. Mais où nous sauver à cette heure ?» Je lui répondais « Suis-moi. » Nous traversâmes bientôt un grand et beau village, aussi pillé et abandonné. Plus loin, nous rencontrâmes des paysans qui nous regardaient d'un air de défiance, en se rangeant au bord du chemin. Nous devions avoir de mauvaises mines, surtout Bûche, avec sa tête bandée et sa barbe de 8 jours, épaisse et dure comme les soies d'un sanglier. Vers 1 heure de l'après-midi, nous avions déjà repassé la Sambre sur le pont du Châtelet, mais comme les Prussiens étaient en route, nous ne fîmes pas encore halte dans cet endroit. J'avais pourtant déjà bonne confiance, je pensais. Si les Prussiens continuent leur poursuite, ils suivront certainement la grande masse pour faire plus de prisonniers et recueillir des canons, des caissons et des bagages. Voilà comment étaient forcés de raisonner des hommes qui, 3 jours auparavant, faisaient trembler le monde. Je me souviens qu'en arrivant sur les 3 heures, dans un petit village, nous nous arrêtâmes devant une forge pour demander à boire. Aussitôt, les gens du pays nous entourèrent, et le forgeron, un homme grand et brun, nous dit d'entrer dans l'auberge en face, qu'il allait venir et que nous prendrions une cruche de bière avec lui. Naturellement, cela nous fit plaisir, car nous avions peur d'être arrêtés et nous voyions que ces gens étaient pour nous. L'idée me vint aussi qu'il me restait de l'argent dans mon sac et que j'allais pouvoir m'en servir. Nous entrâmes donc dans cette auberge qui n'était qu'un bouchon, les 2 petites fenêtres sur la rue et la porte ronde, souvent à 2 battants, comme dans les villages de chez nous. Quand nous fûmes assis, la salle se remplit tellement de monde, hommes et femmes, pour avoir des nouvelles, que nous pouvions à peine respirer. Le forgeron vint. Il avait ôté son tablier de cuir et mis une petite blouse bleue. Et tout de suite, lorsqu'il entra, nous reconnûmes que 5 ou 6 autres honnêtes bourgeois le suivaient. C'était le maire, l'adjoint et les conseillers municipaux de cet endroit. Ils s'assirent sur les bancs en face de nous et nous firent servir de la bière aigre, comme on l'aime en ce pays. Bûche ayant demandé du pain, la femme de l'aubergiste nous apporta la miche et un gros morceau de bœuf dans une écuelle. Tous nous disaient « Mangez, mangez !» Quand l'un ou l'autre nous adressait des questions sur la bataille, le maire ou le forgeron s'écriait « Laissez donc ces hommes finir! Vous voyez bien qu'ils arrivent de loin !» Et seulement à la fin, ils nous interrogèrent, nous demandant s'il était vrai que les Français venaient de perdre une grande bataille. On leur avait rapporté d'abord que nous étions vainqueurs, et maintenant un bruit se répandait que nous étions en déroute. Nous comprîmes bien qu'ils avaient entendu parler de Ligny, et que cela leur troublait les idées. J'étais honteux de leur avouer notre débâcle. Je regardais Bûche qui dit « Nous avons été trahis. Les traîtres ont livré nos plans. L'armée était pleine de traîtres, chargée de crier, sauf qui peut. Comment voulez-vous que par ce moyen nous n'ayons pas perdu ?» C'était la première fois que j'entendais parler de cette trahison. Quelques blessés criaient bien « Nous sommes trahis !» Mais je n'avais pas fait attention à leurs paroles, et quand Bûche nous tira d'embarras par ce moyen, j'en fus content et même étonné. Ces gens, alors, s'indignèrent avec nous contre les traîtres. Il fallut leur expliquer la bataille et la trahison. Bûche disait que les Prussiens étaient arrivés par la trahison du maréchal Grouchy. Cela me paraissait tout de même trop fort. Mais les paysans, remplis d'attendrissement, nous ayant encore fait boire de la bière et même donné du tabac et des pipes, je finis par dire comme Bûche. Ce n'est que plus tard, après être parti de là, que l'idée de nos mensonges abominables me fit honte à moi-même, et que je m'écriai. Sais-tu bien, Jean, que nos mensonges sur les traîtres ne sont pas beaux? Si chacun en raconte autant, finalement, nous serons tous des traîtres, et l'empereur sera seul un honnête homme. C'est honteux pour notre pays de dire que nous avons tant de traîtres parmi nous. Ce n'est pas vrai. Bah, bah, disait-il, nous avons été trahis. Sans cela, jamais des Anglais et des Prussiens ne nous auraient forcés de battre en retraite. » Et jusqu'à 8 heures du soir, nous ne fîmes que nous disputer. Nous arrivâmes alors dans un autre village appelé Bouvigny. Nous étions tellement fatigués que nos jambes étaient roides comme des piquets, et que depuis longtemps, il nous fallait un grand courage pour faire un pas. Nous croyions être bien loin des Prussiens. Comme j'avais de l'argent, nous entrâmes dans une auberge en demandant à coucher. Je sortis une pièce de 6 livres pour montrer que nous pouvions payer. J'avais résolu de changer d'habit le lendemain, de planter là mon fusil, mon sac, ma giberne, et de retourner chez nous, car je croyais la guerre finie, et je me réjouissais, au milieu de tous ces grands malheurs, d'avoir retiré mes bras et mes jambes de l'affaire. Bûche et moi, ce soir-là, couchés dans une petite chambre, la Sainte Vierge et l'Enfant Jésus dans une niche au-dessus de nous, entre les rideaux, nous dormîmes comme des bienheureux. Le lendemain, au lieu de continuer notre route, nous étions si contents de rester assis sur une bonne chaise dans la cuisine, d'allonger nos jambes et de fumer notre pipe en regardant bouillir la marmite, que nous dîmes. Restons ici tranquillement. Demain, nous serons bien reposés, nous achèterons 2 pantalons de toile, 2 blouses, nous couperons 2 bons bâtons dans une haie et nous retournerons par petites étapes à la maison. Cela nous attendrissait de penser à ces choses agréables. C'est aussi de cette auberge que j'écrivis à Catherine, à la tante Grédel et à M. Goulden. Je ne leur dis qu'un mot. Je suis sauvé. Remercions Dieu. J'arrive. Je vous embrasse de tout mon cœur, 1000 et 1000 fois. Signé Joseph Bertha. En écrivant, je louais le Seigneur. Mais bien des choses devaient encore m'arriver avant de monter notre escalier au coin de Fouquet, en face du Bœuf Rouge. Quand on est pris par la conscription, il ne faut pas se presser d'écrire qu'on est relâché. Ce bonheur ne dépend pas de nous, et la bonne volonté de s'en aller ne sert de rien. Enfin, ma lettre partit par la poste, et, de toute cette journée, nous restâmes à l'auberge du Mouton d'Or. Après avoir bien soupé, nous montâmes dormir. Je disais à Bûche, « Hé, Jean, c'est autre chose de faire ce qu'on veut, ou d'être forcé de répondre à l'appel. » Nous rions tous les deux malgré les malheurs de la patrie, sans y penser, bien entendu, car nous aurions été de véritables gueux. Enfin, pour la seconde fois, nous étions couchés dans notre lit, lorsque vers 1 heure du matin, nous fûmes éveillés d'une façon extraordinaire. Le tambour battait. On entendait marcher dans tout le village. Je poussai Bûche qui me dit « J'entends bien. Les Prussiens sont dehors. » On peut se figurer notre épouvante. Mais au bout d'un instant, ce fut bien pire, car on frappait à la porte de l'auberge, qui s'ouvrit, et 2 secondes après, la grande salle était pleine de monde. On montait l'escalier. Bûche et moi, nous nous étions levés. Il disait « Je me défends, si l'on veut me prendre. » Moi, je n'osais pas songer à ce que j'allais faire. Nous étions déjà presque habillés, et j'espérais pouvoir me sauver pendant la nuit avant d'être reconnu, quand des coups retentirent à notre porte. On criait « Ouvrez !» Il fallut bien ouvrir. Un officier d'infanterie, trempé par la pluie, son gros manteau bleu collé sur les épaulettes, et suivi d'un vieux sergent qui tenait une lanterne, entra. Nous reconnûmes que c'étaient des Français. L'officier nous dit brusquement « D'où venez-vous ?»« Du Mont-Saint-Jean, mon lieutenant, » lui répondis-je. « De quel régiment êtes-vous »« Du 6e léger. » Il regarda le numéro de mon saco sur la table, et je vis en même temps le sien. C'était aussi du 6e léger. « De quel bataillon ?» fit-il en fronçant le sourcil. « Du 3. » Bûche, tout pâle, ne disait rien. L'officier regardait nos fusils, nos sacs, nos gibernes derrière le lit, dans un coin. « Vous avez déserté ? » fit-il. « Non, mon lieutenant. Nous sommes partis les derniers, sur les 8 heures, du Mont-Saint-Jean. « Descendez, nous allons voir cela. » Nous descendîmes. L'officier nous suivait. Le sergent marchait devant, avec la lanterne. La grande salle, en bas, était pleine d'officiers, du 12e chasseur à cheval et du 6e léger. Le commandant du 4e bataillon du 6e se promenait de long en large, en fumant une petite pipe de bois. Tous ces gens étaient trempés et couverts de boue. L'officier dit 4 mots au commandant, qui s'arrêta. Ses yeux noirs fixés sur nous, et son nez crochu, recourbé dans ses moustaches grises. Il n'avait pas l'air tendre, et nous posa de suite 5 ou 6 questions sur notre départ de Ligny, sur la route des 4 bras et la bataille. Il clignait des yeux en serrant les lèvres. Les autres allaient et venaient, tramant leurs sabres sans écouter. Finalement, le commandant dit « Sergent, ces 2 hommes entrent dans la 2e compagnie. Allez !» Il reprit sa pipe au bord de la cheminée, et nous sortîmes avec le sergent, bien heureux d'en être quitte à si bon marché, car on aurait pu nous fusiller comme déserteurs devant l'ennemi. Le sergent nous conduisit à 200 pas, au bout du village, près d'un hangar. On avait allumé des feux plus loin, dans les champs. Des hommes dormaient sous le hangar, contre les portes d'écurie et les piliers. Il tombait une petite pluie fine dans la rue. Toutes les flaques d'eau tremblotaient, à la lune grise et brouillée. Nous restâmes debout, sous un pan de toit, au coin de la vieille maison, songeant à nos misères. Au bout d'une heure, le tambour se mit à rouler sourdement. Les hommes secouèrent la paille et le foin de leurs habits, et nous repartîmes. Il faisait encore nuit sombre. Derrière nous, les chasseurs sonnaient le bout de selle. Entre 3 et 4 heures, au petit jour, nous vîmes un grand nombre d'autres régiments, cavalerie, infanterie et artillerie, en marche, comme nous, par différents chemins. Tout le corps du maréchal Grouchy en retraite. Le temps mouillé, le ciel sombre, ces longues files d'hommes accablés de lassitude, le chagrin d'être repris, et de penser que tant d'efforts, tant de sang répandu n'aboutissaient pour la 2e fois qu'à l'invasion. Tout cela nous faisait pencher la tête. On n'entendait que le bruit des pas dans la boue. Cette tristesse durait depuis longtemps, lorsqu'une voix me dit « Bonjour, Joseph !» Je m'éveillai, regardant celui qui me parlait, et je reconnus le fils du tourneur Martin, notre voisin de Phalsbourg. Il était caporal au 6e, et marchait en serre-file l'arme à volonté. Nous nous serrâmes la main. Ce fut une véritable consolation pour moi de voir quelqu'un du pays. Malgré la pluie qui tombait toujours, et la grande fatigue, nous ne fîmes que parler de cette terrible campagne. Je lui racontai la bataille de Waterloo. Lui me dit que le 4e bataillon, à partir de Fleurus, avait fait route sur Wavre avec tout le corps d'armée de Grouchy, que dans l'après-midi du lendemain 18, on entendait le canon sur la gauche, et que tout le monde voulait marcher dans cette direction, que c'était aussi l'avis des généraux, mais que le maréchal, ayant reçu des ordres positifs, avait continué sa route sur Wavre. Ce n'est qu'entre 6 et 7 heures, et quand il fut clair, que les Prussiens s'étaient échappés, qu'on avait changé de direction à gauche pour aller rejoindre l'empereur. Malheureusement, il était trop tard, et vers minuit, il avait fallu prendre position dans les champs. Chaque bataillon avait formé le carré. À 3 heures du matin, le canon des Prussiens avait réveillé les bivouacs, et l'on s'était tiraillé jusqu'à 2 heures de l'après-midi, moment où l'ordre était venu de se mettre en retraite. « C'était encore une fois bien tard, » disait Martin, « car une partie de l'armée, qui venait de battre celle de l'empereur, se trouvait déjà sur nos derrières, et cela nous força de marcher tout le restant du jour et la nuit suivante jusqu'à 6 heures du matin pour nous en dégager. À 6 heures, le bataillon avait pris position près du village de Templou. À 10, les Prussiens arrivaient en force supérieure. On leur avait opposé la plus vigoureuse résistance pour donner le temps à l'artillerie et aux bagages de passer le pont à Namur. Tout le corps d'armée avait heureusement défilé par la ville, excepté le 4e bataillon, par la faute du commandant Delongue, qui s'était laissé tourner à droite de la route et qui dut se jeter dans la Sambre pour n'être pas coupé. Plusieurs hommes avaient été faits prisonniers, d'autres s'étaient noyés en essayant de passer la rivière à la nage. C'est tout ce que me raconta Martin. Il n'avait aucune nouvelle de chez nous. Ce même jour, nous passâmes par Givet, le bataillon bivouaqua près du village de Hiersch, 1/2 lieue plus loin. Le lendemain, après avoir passé par Fumet et Rocroy, nous couchâmes à Bourfidel, le 23 juin à Blombay, le 24 à Saulles-le-Noix, où l'on a pris l'abdication de l'empereur, et les jours suivants à Vitry, près de Reims, à Jonchery, à Soissons. De là, le bataillon prit la route de Villers-Cotterêts. Mais l'ennemi nous ayant déjà devancés, nous changeâmes de direction par la Ferté-Milon, et nous allâmes bivouaquer à Neuchâtel, village ruiné par l'invasion de 1814 et qui n'avait pas encore été rebâti. Nous partîmes de cet endroit le 29, vers 1 heure du matin, et nous passâmes par Meaux. Il fallut prendre la route de Lagny, parce que les Prussiens occupaient celle de Claye. Nous poursuivîmes notre route tout le jour et la nuit suivante. Le 30, à 5 heures du matin, nous étions au pont de Saint-Maur. Le même jour, à 3 heures du soir, nous avions passé hors de Paris. Et nous bivouaquions près d'un endroit riche en toutes choses, appelé Vaugirard, sur la route de Versailles. Le 1er juillet, nous étions allés bivouaquer près d'un endroit superbe, appelé Meudon. On voyait au jardin, au verger, entouré de murs, à la grandeur extraordinaire des maisons, à leur bon entretien, que c'étaient les environs de la plus belle ville du monde. Et pourtant nous vivions au milieu de la misère et des dangers. Le cœur nous en saignait. Les gens sont bons, ils aiment les soldats. On nous appelait défenseurs de la patrie, et les plus pauvres voulaient se battre avec nous. Le 1er juillet, nous quittâmes la position à 11 heures du soir pour aller à Saint-Cloud, qui n'est que palais sur palais, jardin sur jardin, grands arbres, allées magnifiques, tout ce qu'on peut se figurer d'admirable. À 6 heures, nous partîmes de Saint-Cloud pour revenir prendre position à Vaugirard. Des rumeurs terribles couraient dans la ville. L'empereur était parti pour Rochefort. On disait « Le roi de Rome va revenir, Louis XVIII est en route ». On ne savait rien dans cette ville où l'on devrait tout savoir d'abord. À Vaugirard, l'ennemi va nous attaquer vers 1 heure de l'après-midi, dans les environs du village d'Issy. Nous nous battîmes jusqu'à minuit pour notre capitale. Le peuple nous aidait. Il venait relever nos blessés sous le feu des Prussiens. Les femmes avaient pitié de nous. Notre souffrance d'avoir été menée jusque-là par la force ne peut pas se dire. J'ai vu Buche lui-même pleurer, parce que nous étions en quelque sorte déshonorés. J'aurais bien voulu ne pas voir cela. 12 jours auparavant, je ne me figurais pas si bien la France. En voyant Paris, avec ses clochers et ses palais innombrables, qui s'étendent aussi loin que va le ciel, je pensais. C'est la France. Voilà ce que depuis des centaines et des centaines d'années, nos anciens ont amassé. Quel malheur de dire que les Anglais et que les Prussiens arrivent jusqu'ici. À 4 heures du matin, nous attaquâmes les Prussiens avec une nouvelle fureur, et nous leur reprîmes les positions perdues la veille. C'est alors que des généraux vinrent nous annoncer une suspension d'armes. Ces choses se passaient le 3 juillet 1815. Nous pensions que cette suspension d'armes était pour prévenir l'ennemi que, s'il ne se retirait pas, la France se lèverait comme en 92 et qu'elle l'écraserait. Nous avions des idées pareilles, et moi, voyant ce peuple qui nous soutenait, je me rappelais les levées en masse dont le père Goulden me parlait toujours. Malheureusement, un grand nombre étaient si las de Napoléon et des soldats qu'ils sacrifiaient la patrie elle-même pour en être débarrassés. Ils mettaient tout sur le dos de l'empereur et disaient que sans lui, les autres n'auraient jamais eu ni la force ni le courage de venir, qu'ils nous avaient épuisés et que les Prussiens eux-mêmes nous donneraient plus de liberté. Le peuple parlait comme M. Goulden, mais il n'avait pas d'armes ni de cartouches. On avait fait des piques pour lui. Et comme on rêvait à ces choses, le 4, on nous annonça l'armistice, par lequel les Prussiens et les Anglais devaient occuper les barrières de Paris, et l'armée française se retirer derrière la Loire. Alors, l'indignation de tous les honnêtes gens fut si grande que la colère nous rendit furieux. Les uns cassaient leurs fusils, les autres déchiraient leurs uniformes, et tout le monde criait. Nous sommes trahis, nous sommes livrés. Les vieux officiers, pâles comme des morts, restaient là. Les larmes leur coulaient sur les joues. Personne ne pouvait nous apaiser. Nous étions tombés en dessous de rien. Nous étions un peuple conquis. Dans 2000 ans, on dira que Paris a été pris par les Prussiens et les Anglais. C'est une honte éternelle. Mais cette honte ne repose pas sur nous. Le bataillon partit de Vaugirard à 5 heures du soir, le 5 juillet, pour aller bivouaquer à Montrouge. Comme on voyait que le mouvement du côté de la Loire commençait, chacun se dit « Qu'est-ce que nous sommes donc ? Est-ce que nous obéissons aux Prussiens ? Parce que les Prussiens veulent nous voir sur l'autre rive de la Loire, nous sommes forcés d'obéir. Non, non, cela ne peut pas aller. Puisqu'on nous trahit, eh bien partons. Tout cela ne nous regarde plus. Nous avons fait notre devoir. Nous ne voulons pas obéir à Blücher. » Et ce même soir, la désertion commença. Tous les soldats partaient, les uns à droite, les autres à gauche. Des hommes en blouse et de pauvres vieilles femmes voulaient nous emmener dans leurs rues innombrables et tâchaient de nous consoler. Mais nous n'avions pas besoin de consolation. Je dis à Buche, « Laissons tout cela. Retournons à Phalsbourg. Au Harberg, reprenons notre état. Vivons comme d'honnêtes gens. Si les Prussiens, les Autrichiens ou les Russes arrivent là-bas, les montagnards et ceux de la ville sauront bien se défendre. Nous n'aurons pas besoin de grandes batailles pour en exterminer des mille et des mille. En route. Nous étions une quinzaine de Lorrains au bataillon. Nous partîmes ensemble de Montrouge, où se trouvait le quartier général, et nous passâmes par Ivry et Bercy, qui sont des endroits de toute beauté. Mais le chagrin nous empêchait de voir le quart de ce qu'il aurait fallu regarder. Les uns conservaient l'uniforme, d'autres n'avaient que la capote, d'autres avaient acheté une blouse. Derrière Saint-Mandé, tout près d'un bois, où l'on voit à gauche de hautes tours et que l'on nous dit être Vincennes, nous trouvâmes enfin la route de Strasbourg. C'était le 6, au matin, et depuis cet endroit, nous fîmes régulièrement nos 12 lieues par jour. Le 8 juillet, on savait déjà que Louis XVIII allait revenir, et que Monseigneur le comte d'Artois ferait son salut. Toutes les voitures, les patâches, les diligences portaient déjà le drapeau blanc. Dans tous les villages où nous passions, on chantait des Tédéum. Les maires, les adjoints, louaient et glorifiaient le Seigneur du retour de Louis le Bien-Aimé. Des gueux, en nous voyant passer, nous appelaient bonapartistes. Ils excitaient même les chiens contre nous. Mais j'aime mieux ne pas parler de cela. Les gens de cette espèce sont la honte du genre humain. Nous leur répondions que par un coup d'œil de mépris qui les rendait encore plus insolents et plus furieux. Plusieurs d'entre nous balançaient leurs bâtons comme pour dire « Si nous vous tenions dans un coin, vous seriez doux comme des moutons. » Mais les gendarmes soutenaient ces espèces de pinacles. Dans 3 ou 4 endroits, les cris de la mauvaise race nous firent arrêter. Les gendarmes arrivaient nous demander nos papiers. On nous menait à la mairie et les gueux nous forçaient de crier « Vive le roi !» C'était une véritable abomination. Les vieux soldats, plutôt que de crier, se laissaient conduire en prison. Bûche voulut suivre leur exemple, mais je lui disais « Qu'est-ce que cela nous fait de crier « Vive Jean-Claude » ou « Vive Jean-Nicolas » Tous ces rois, ces empereurs, anciens ou nouveaux, ne donneraient pas un seul de leurs cheveux pour nous sauver la vie, et nous irions nous faire échiner pour crier d'une façon ou d'une autre. Non, cela ne nous regarde pas. Puisque les gens sont si bêtes et que nous ne sommes pas les plus forts, il faut les satisfaire. Plus tard, ils crieront autre chose. Et plus tard, encore autre chose. Tout change. Il n'y a que le bon sens et le bon cœur qui restent. » Buche ne voulait pas comprendre ses raisons, mais quand les gendarmes arrivaient, il obéissait tout de même. À mesure que nous avancions, tantôt l'un, tantôt l'autre se détachait de la troupe et s'arrêtait dans son village, de sorte qu'après Toul, Buche et moi nous étions seuls. C'est nous qui vîmes encore le plus triste spectacle. Des Allemands et des Russes en foule, maîtres de la Lorraine et de l'Alsace. Ils faisaient l'exercice à Lunéville, à Blamont, à Sarrebourg, avec des branches de chêne sur leurs mauvais sacos. Quel chagrin de voir des sauvages pareils vivre et se goberger au compte de nos paysans. Ah, le père Goulden avait bien raison de dire que la gloire des armes coûte cher. Tout ce que je souhaite, c'est que le Seigneur nous en débarrasse pour les siècles des siècles. Enfin, le 16 juillet 1815, vers 11 h du matin, nous arrivâmes à Mittelbraun, le dernier village sur la côte avant Phalsbourg. Le blocus était levé depuis l'armistice. Des Cosaques, des Landwehrs et des Kaiserlich remplissaient le pays. Ils avaient encore leurs batteries en position autour de la place, mais on ne tirait plus. Les portes de la ville étaient ouvertes. Les gens sortaient pour faire leurs récoltes. On avait grand besoin de rentrer les blés et les seigles, car on peut s'imaginer la misère avec tant de milliers d'êtres inutiles à nourrir, et qui ne refusaient rien, qui voulaient du schnaps et du lard tous les jours. Devant toutes les portes, à toutes les fenêtres, on ne voyait que des nez camards, de ces longues barbes jaunes, crasseuses, de ces habits blancs remplis de vermine, et de ces sacos blancs, qui vous regardaient en fumant leurs pipes dans la paresse et l'ivrognerie. Il fallait travailler pour eux. Et finalement, les honnêtes gens furent encore obligés de leur donner 2 milliards pour les décider à partir. Combien de choses on aurait à dire sur tous ces feignants de la Russie et de l'Allemagne, si nous n'avions pas fait 10 fois plus dans leur pays. Mais il vaut mieux que chacun réfléchisse pour son propre compte et s'imagine le reste. Devant l'auberge Heights, je dis à Buche « Entrons, les jambes me manquent. » La mère Heights, qui dans ce temps était encore une jeune femme, criait déjà les mains en l'air. « Ah, mon Dieu ! C'est Monsieur Joseph Bertha ! Dieu du ciel ! Quelle surprise en ville !» Alors j'entrai, je m'assis et je me penchai sur la table pour pleurer à mon aise. La mère Heitz courait chercher une bouteille de vin à la cave. J'entendais aussi Buche sangloter dans un coin. Nous ne pouvions parler ni l'un ni l'autre en songeant à la joie de nos parents. La vue du pays nous avait bouleversés, et nous étions contents de penser que nos os reposeraient un jour en paix dans le cimetière de notre village. En attendant, nous allions toujours embrasser ceux que nous aimions le plus au monde. Quand nous fûmes un peu remis, je dis à Buche, « Tu vas partir en avant. Je te suivrai de loin, pour que ma femme et M. Goulden n'aient pas trop de surprises. Tu commenceras par leur dire que tu m'as rencontré le lendemain de la bataille, sans blessure. Ensuite, que tu m'as encore rencontré dans les environs de Paris, et même sur la route. Et seulement à la fin, tu diras, « Je crois qu'il n'est pas loin, et qu'il va venir. » Tu comprends ?« Oui, je comprends, » dit-il, en se levant après avoir vidé son verre. « Et je ferai la même chose pour la grand-mère, qui m'aime plus que les autres garçons. J'enverrai quelqu'un d'avance. » Il sortit aussitôt, et j'attendis quelques instants. La mère Heitz me parlait, mais je ne l'écoutais pas. Je songeais au chemin qu'avait déjà pu faire Buche. Je le voyais près du guévoir, dans l'avancée, sous la porte. Tout à coup, je partis en criant. « Mère Heitz, je vous paierai plus tard !» Et je me mis à courir. Il me semble bien avoir rencontré 3 ou 4 personnes qui disaient « Hé, c'est Joseph Bertha !» Mais je n'en suis pas sûr. D'un coup, sans savoir comment, je montai l'escalier de notre maison et puis j'entendis un grand cri. Catherine était dans mes bras. J'avais en quelque sorte la tête bouleversée et seulement un instant après, je sortis comme d'un rêve. Je vis la chambre, M. Goulden, Jean Buche, Catherine et je me mis tellement à sangloter qu'on aurait cru qu'il venait de m'arriver le plus grand malheur. M. Goulden ne disait rien, ni Buche. Je tenais Catherine assise sur mes genoux, je l'embrassais. Elle pleurait aussi. Et bien longtemps après, je m'écriai. « Ah, monsieur Goulden, pardonnez-moi. J'aurais déjà voulu vous embrasser. Vous, mon père, vous que j'aime autant que moi-même. »« C'est bon, Joseph, » dit-il, tout attendri. « Je le sais. Je ne suis pas jaloux. » Il s'essuyait les yeux. « Oui, oui, l'amour, la famille. Et puis les amis. C'est naturel, mon enfant. Ne te trouble pas. » Alors je me levai et j'allais le serrer sur mon cœur. Le premier mot que me dit Catherine, ce fut « Joseph, je savais que tu reviendrais. J'avais mis ma confiance en Dieu. Maintenant, nos plus grandes misères sont passées. Nous resterons toujours ensemble. » Je l'avais encore fait asseoir sur mes genoux, son bras sur mon épaule. Je la regardais. Elle baissait les yeux toute pâle. Ce que nous espérions avant mon départ était arrivé. Nous étions bien heureux. Monsieur Goulden, près de l'établi, souriait. Jean, debout à côté de la porte, disait « Maintenant je pars, Joseph. Je vais au Harberg. Le père et la grand-mère m'attendent. » Il me tendait la main et je la retenais, disant « Jean, reste. Tu dîneras avec nous. » Monsieur Goulden et Catherine l'engageaient aussi, mais il ne voulut pas attendre. En l'embrassant sur l'escalier, je sentis que je l'aimais comme un frère. Il est revenu bien souvent depuis. Chaque fois qu'il arrivait en ville, pendant 30 ans, c'est chez moi qu'il descendait. Maintenant, il repose derrière l'église de la Omerte. C'était un brave homme, un homme de cœur. Mais à quoi avais-je pensé? Il faut pourtant que cette histoire finisse. Et je n'ai rien dit encore de la tante Gredel, qui vint une heure après. Ah, c'est elle qui levait les bras. C'est elle qui me serrait en criant. « Joseph, Joseph, te voilà donc échappé de tout. Qu'on vienne te reprendre maintenant, qu'on vienne. Ah, comme je me suis repenti de t'avoir laissé partir, comme j'ai maudit la conscription et le reste. Mais te voilà. C'est bon, c'est bon. Le Seigneur a eu pitié de nous. » Oui, tout cela, toutes ces vieilles histoires, quand on y pense, vous font encore venir les larmes aux yeux. C'est comme un rêve, un songe oublié depuis des années et des années, et pourtant c'est la vie. Ces joies et ces chagrins, qu'on se rappelle, sont encore la seule chose qui vous rattache à la terre et qui fait que, dans la grande vieillesse, lorsque les forces s'en vont, lorsque la vue baisse et que l'on n'est plus que l'ombre de soi-même, on ne veut jamais partir. On ne dit jamais « c'est assez ». Ces vieux souvenirs sont toujours vivants. Quand on parle de ces anciens dangers, on croit encore y être. De ces vieux amis, on croit encore leur serrer la main. De celle qu'on aimait, on croit encore la tenir sur ses genoux et penser en la regardant « elle est belle ». Et ce qui vous semblait juste, honnête, sage autrefois, est encore honnête, juste et sage. Je me souviens, et ceci doit finir cette longue histoire, qu'après mon retour, durant quelques mois et même des années, une grande tristesse régnait dans les familles, et qu'on n'osait plus se parler franchement, ni faire des vœux pour la gloire du pays. Zébédée lui-même rentrait parmi ceux qu'on avait licenciés derrière la Loire, Zébédée lui-même avait perdu courage. Cela venait des vengeances, des jugements et des fusillades, des massacres et des revanches de toutes sortes. Cela venait de notre humiliation. Des 150 000 Allemands, Anglais et Russes qui tenaient garnison dans nos forteresses, des indemnités de guerre, du milliard des émigrés, des contributions forcées et principalement des lois contre les suspects, contre les sacrilèges et pour les droits d'aînés qu'on voulait rétablir. Toutes ces choses contraires au bon sens, contraires à l'honneur de la nation, avec les dénonciations des pinacles et les avanies qu'on faisait souffrir aux vieux révolutionnaires, toutes ces choses avaient fini par vous rendre sombre. Aussi souvent, quand nous étions seuls avec Catherine et le petit Joseph, que Dieu nous avait envoyé pour nous consoler au milieu de ces grandes misères, M. Goulden, tout rêveur, me disait « Joseph, notre malheureux pays est bien bas. Quand Napoléon a pris la France, elle était la plus grande, la plus libre, la plus puissante des nations. Tous les autres peuples nous admiraient et nous enviaient. Aujourd'hui, nous sommes vaincus, ruinés, saignés à blanc. L'ennemi remplit nos forteresses, il nous tient le pied sur la gorge. Ceux qui ne s'étaient jamais vus depuis que la France existe. L'étranger, maître de notre capitale. Nous l'avons vu 2 fois en 2 ans. Voilà ce qu'il en coûte de mettre sa liberté, sa fortune, son honneur entre les mains d'un ambitieux. Oui, nous sommes dans une bien triste position. On croirait que notre grande révolution est morte et que les droits de l'homme sont anéantis. Eh bien, il ne faut pas se décourager. Tout cela passera. Ceux qui marchent contre la justice et la liberté seront chassés. Ceux qui veulent rétablir les privilèges et les titres seront regardés comme des fous. La grande nation se repose. Elle réfléchit sur ses fautes. Elle observe ceux qui veulent la conduire contre ses intérêts. Elle lit dans le fond de leur âme. Et malgré les Suisses, malgré la garde royale, malgré la Sainte Alliance, quand elle sera lasse de sa misère, elle mettra ses gens dehors, du jour au lendemain. Et ce sera fini, car la France veut la liberté, l'égalité et la justice. La seule chose qui nous manque, c'est l'instruction. Mais le peuple s'instruit tous les jours. Il profite de notre expérience et de nos malheurs. Je n'aurai peut-être pas le bonheur de voir le réveil de la patrie. Je suis trop vieux pour l'espérer. Mais toi, tu le verras, et ce spectacle te consolera de tout. Tu seras fier d'appartenir à cette nation généreuse, qui marche bien loin en avant des autres depuis 89. Ces instants de halte ne sont que de petits repos pendant un long voyage. » Cet homme de bien, jusqu'à sa dernière heure, conserva son calme et sa confiance. Et j'ai vu l'accomplissement de ses paroles. J'ai vu le retour du drapeau de la liberté. J'ai vu la nation croître en richesse, en bonheur, en instruction. J'ai vu ceux qui voulaient arrêter la justice et rétablir l'ancien régime forcés de partir. Et je vois que l'esprit marche toujours, que les paysans donneraient jusqu'à leur dernière chemise pour avancer leurs enfants. Malheureusement, nous n'avons pas assez de maîtres d'école. Ah, si nous avions moins de soldats et plus de maîtres d'école, tout irait beaucoup plus vite. Mais patience, cela viendra. Le peuple commence à comprendre ses droits. Il sait que les guerres ne lui rapportent que des augmentations de contributions. Et quand il dira « Au lieu d'envoyer mes fils périr par milliers sous le sabre et le canon, je veux qu'on les instruise et qu'on en fasse des hommes. » qui est-ce qui oserait vouloir le contraire, puisqu'aujourd'hui, le peuple est le maître. Dans cet espoir, je vous dis adieu, mes amis, et je vous embrasse de tout mon cœur.
Oh,